Comme tous les mercredis soirs, Maurice Efti va nous emmener dans un voyage à travers le temps, à travers les âges, avec ce soir la découverte d'un peuple qui vient du froid.
Imaginons-nous que demain il va faire nuit jusqu'à midi. Imaginons-nous qu'il fait moins 10 ou moins 15 degrés à l'extérieur. Imaginons-nous que nous sommes en Suède, en Norvège, au Danemark, ou même au Groenland, enfin, tout au nord de l'Europe. Imaginons-nous que nous soyons des Vikings, en plein 8e siècle, et que nous sommes prêts à découvrir le Groenland, justement, prêts à découvrir les Amériques, que nous avons pillé l'Islande, l'Irlande, que l'on va mettre la France, Paris, à feu et à sang, qu'on va même découvrir toute la Russie, s'asseoir sur le trône des tsars, qu'on va enfin aller jusqu'en Sicile, où on établira une nouvelle royauté, qu'on va conquérir l'Angleterre. Oui, être viking, c'est un gros morceau d'histoire, ce sont 3 siècles qui vont du 8e au 11e siècle de notre ère, mais c'est aussi toute une page légendaire, car qu'est-ce qui reste aujourd'hui des vikings, si ce n'est les histoires, les sagas, les légendes? Étudions tout d'abord la Scandinavie. Bon, on la connaît bien aujourd'hui, elle est formée de 3 pays, mais remontons au 8e siècle, toujours de notre ère bien sûr, et voyons un peu comment elle est habitée. Il y a peu d'habitants en fin de compte. Sur l'ensemble de ces 3 pays d'aujourd'hui, à l'époque il y avait à peu près 1,5 million, 2 millions d'habitants peut-être. Et cette population, depuis les années 800, va commencer à croître de façon incroyable. Et il y a plusieurs causes qu'on peut étudier. D'abord, c'est d'abord une question climatique peut-être. Le climat va se réchauffer, il deviendra beaucoup plus doux, donc on va pouvoir commencer de façon systématique une agriculture beaucoup plus intense, donc les hommes seront mieux nourris, seront plus vigoureux, et la mortalité va diminuer, parce que si les hivers sont moins rigoureux, bien, effectivement on va perdre moins de vieillards, moins d'enfants, et au bout de quelques années, le territoire scandinave va devenir un peu trop exigu. Donc on sent déjà cette possibilité d'aller chercher à l'extérieur. Il y a un autre fait qui me paraît très intéressant, c'est de savoir qu'après tout, dans les années 700-800, les Scandinaves sont les seuls qui ne soient pas christianisés de toute l'Europe. Donc ce sont les seuls aussi qui vivent encore de polygamie. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir plusieurs femmes, ce qui permet d'avoir plus d'enfants, bien sûr. Et puis il y a d'autres cas intéressants, je pense particulièrement à la justice. Lorsqu'on punissait véritablement un Scandinave, à l'époque, on l'obligeait à partir de chez lui, c'est-à-dire qu'il était carrément expulsé de son pays. Ça permet aussi d'entretenir l'idée des voyages et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Donc on sent déjà toute la formation de ces futurs vikings qui vont devenir des gens extrêmement téméraires, des gens qui seront habitués aux risques et qui vont être habités par la passion du voyage. C'est ainsi qu'on les sent immédiatement en train de rechercher des richesses qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, si j'ai parlé de cette époque, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose d'important qui est en train de se créer en Europe. L'Europe est figée, ça je crois qu'il faut le savoir. Elle est figée parce que l'islam est un peu partout, la Méditerranée est totalement coincée, il n'y a que très peu de voyageurs, mais il y a une voie commerciale qui est en train de se créer dans le nord, tout près de la Scandinavie, c'est celle de la vallée du Rhin. C'est une sorte de transition où toutes les richesses vont monter et descendre. Alors ça, c'est normal, quand on est scandinave, on voit cela juste sous ses yeux, on sent cela juste en dessous, on s'y intéresse, et ils vont être attirés par toutes ces marchandises qui circulent tout près de chez eux. Ils vont, en fait, par obligation, devenir des pillards, devenir des pirates. Et pendant plus de 3 siècles, du 8e au 11e siècle, les vikings vont commencer à voyager, nous l'avons dit, mais ils vont surtout tenter d'envahir petit à petit tous les pays qui leur sont voisins. Alors, il y a aussi, bien sûr, le problème de l'identité. C'est-à-dire qu'il y aura des Suédois d'un côté, des Danois de l'autre, les Norvégiens. Et chacun va avoir son théâtre d'opération. Les Suédois vont partir à l'est, du côté de la Russie. Les Danois vont partir à l'ouest, du côté de l'Angleterre. Tandis que les Norvégiens, eh bien, ils vont d'abord s'occuper de piraterie. Et ils vont tenter d'aller le plus loin possible à la conquête de nouvelles colonies. Et ces Norvégiens, ils vont s'intéresser tout d'abord à l'Europe, c'est vrai, mais ensuite, ils vont partir jusqu'au Groenland, ils vont aller jusqu'au continent nord-américain, ils vont découvrir l'Amérique. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnaient? Eh bien, tout d'abord, on peut dire que les Vikings fonctionnaient grâce à des razzias. Des razzias qui avaient un côté extrêmement surprenant. Il y avait des petits bateaux, des bateaux qui faisaient 20 ou 30 mètres de longueur au maximum, des drakkar ou des knorr, et on les voit arriver à l'horizon, comme ça, ils s'approchent des plages, ils déversent 30, 60, une centaine d'hommes peut-être, ils s'élancent à l'assaut d'une église ou d'un monastère, et puis on abat tout le monde, les maisons, les édifices religieux sont pillés, les trésors sont emportés, les bâtiments sont incendiés, et puis on regagne rapidement les navires, on ramasse en même temps les animaux domestiques, on capture les femmes et les hommes qui sont valides, et puis on les vendra par la suite comme esclaves. Ceci a pris au grand mot 2 ou 3 heures. Ça, c'est véritablement le stéréotype de l'attaque viking qui a fait peur à toute l'Europe pendant 3 siècles. Ainsi que nos Norvégiens vont d'abord débarquer dans le nord de l'Irlande, ils vont fonder la ville qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Dublin, et va commencer une longue période où les Norvégiens, les Danois vont s'affronter pour posséder cette Irlande. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ces mélanges qui vont se produire entre les deux cultures. Là, je pense aux Celtes qui vivaient sur place et à nos Scandinaves qui avaient une culture, j'entends, qui avaient une religion, une philosophie complètement différente et qui n'étaient pas chrétiens, je le rappelle. Alors, ces razzias, elles vont partir de tous les côtés. On va les retrouver le long de la Manche, on va les retrouver au Portugal, ils iront même jusqu'à l'intérieur des terres, ils vont monter jusqu'à Nantes, jusqu'à Noirmoutier, ils vont remonter toute la Loire, ils vont atteindre Tours, finalement ils iront même attaquer Paris, on les retrouve en Espagne, ils vont attaquer Cadix, Séville, et puis ils iront même jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'ils vont attaquer plusieurs fois, ils vont prendre la capitale du futur Portugal, c'est-à-dire Lisbonne, et on sait qu'ils ont même touché l'Afrique du Nord. Essayez de voir tout cela sur une carte, c'est incroyable de voir à quel point ces petits bateaux ont pu se lancer le long des côtes, et comme cela, en quelques heures, prendre un maximum des coffres-forts de toutes les villes qu'ils pouvaient attaquer, et rentrer rapidement chez eux. Donc, après avoir découvert et envahi toutes les villes des côtes européennes, c'est vers l'ouest que les Vikings vont se tourner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'établir à l'ouest. Ils vont découvrir tout d'abord l'Islande. Et là, en quelques années, il y aura à peu près 10 000 colons qui vont aborder l'île. Ça se passe entre 870 et 930. Ils vont ramener tout ce qu'ils ont de la Norvège, c'est-à-dire des animaux. Ils vont pratiquer l'élevage au pied des volcans et des glaciers. Ils vont utiliser la mer qui regorge de poissons, ils vont trouver des forêts de bouleaux qui leur permettront de construire leurs bateaux. Et enfin, ils vont retrouver du minerai de fer, car après tout, n'importe quel viking se veut d'être un peu forgeron. Alors, en quelques années, ce sera l'explosion. On va passer de 30 000 colons à 60 000 en 930-940. C'est beaucoup trop, il va falloir rechercher des terres nouvelles, toujours plus lointaines, toujours plus à l'ouest. Donc, on a un besoin tout à fait nouveau qui se fait sentir. Et ce besoin de partir, en 982, c'est celui qu'on connaît sous le nom d'Éric le Rouge qui va permettre une découverte très importante, c'est celle du Groenland. Il est accusé d'avoir commis plusieurs meurtres de sang-froid en Islande, donc il est chassé du territoire pendant 3 ans. Et il a entendu parler de ce Groenland parce qu'un colon avait découvert des terres nouvelles, des terres inhospitalières, à cause d'une tempête, et il était revenu jusqu'en Islande. Alors il part de ce côté-là, il arrive jusqu'au cap Farwell, et il double ce cap, il remonte vers le nord du Groenland, et Éric le Rouge découvre finalement des fjords qui sont très accueillants, et il découvre des vallées très fertiles. Alors immédiatement, il revient vers l'Islande, puis alors il va commencer à vanter les merveilles de cette terre qu'il a baptisée Groenland. Groenland, ça veut dire le pays vert. Alors il va décider des centaines de colons à le suivre. Et au printemps, il y a 25 navires qui sont tous chargés d'animaux, de vivres, de céréales, enfin tout ce dont ils ont besoin, et ils appareillent pour le Groenland, ce pays vert. Alors ils transportent aussi du bois de construction. Et ceci leur permettra, à l'arrivée, de construire, de fonder véritablement, non pas des villages, mais des fermes qui resteront isolées. Mais on sait qu'il y aura plusieurs dizaines de ces fermes qui vont être construites en quelques mois. Parce que sur les 500 personnes qui étaient parties, les femmes, les enfants et les hommes valides, ben, il n'y restera que quelques-uns, puisque des 25 navires, on pense qu'il n'y en a qu'une dizaine qui sont arrivés à destination. Il y avait des tempêtes extraordinaire. On s'imagine aussi ce côté extrêmement dangereux grâce aux glaces. Enfin, on voit ces icebergs un peu partout. Ce Groenland, ça n'est pas une terre hospitalière au départ. Alors, il y a deux colonies qui vont être fondées, une à l'est, l'autre à l'ouest du pays. Et très vite, ça va se dégrader. Je veux dire par là que l'existence n'a pas été si facile. Bon, ils sont tombés sur la bonne saison au départ, mais après, les hivers vont devenir plus rigoureux. Il n'y a pas beaucoup de matières premières non plus. Il n'y a pas de fer ou très peu. Il n'y a pas de bois pour les charpentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes forêts comme ils les avaient trouvées en Islande. La seule chose qui va soutenir les quelques habitants qui vont rester, c'est l'exportation des fourrures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peaux, il y a beaucoup de morses aussi et de narval. Pourquoi du morse, pourquoi du narval? Eh bien, surtout à cause de l'ivoire. Car c'était des matériaux et des matières importantes, puisque l'éléphant n'était que peu connu en Europe et que les défenses n'étaient pas encore importées d'Orient ou d'Afrique. Mais aux alentours de l'an 1000, on estime qu'il y avait à peu près 3000 personnes qui vivaient dans 200 ou 300 fermes. Mais petit à petit, cette société va se dégrader et en moins de 5 siècles, tout ce qui existait au Groenland va être oublié. Mais avant que nous arrivions à la fin de cette existence groenlandaise, de cette colonie groenlandaise, je crois qu'il faut parler de la découverte de l'Amérique, qui, elle, est faite par le fils d'Éric le Rouge. Pour revenir quelques secondes à ce Groenland, je crois que ce qui nous choque tout d'abord, c'est le côté publicitaire qu'en a fait Éric le Rouge. S'il appelait cela le pays vert, eh bien, on remarque surtout qu'au fond, ça a été assez difficile de s'installer au Groenland et qu'en quelques siècles, cette petite société va s'éteindre définitivement. Alors, il y a une contradiction. Mais la contradiction, on la comprend beaucoup mieux quand on sait qu'Éric le Rouge est tombé sur une bonne saison. Et qu'il a vu, effectivement, le Groenland très vert, et qu'il a pensé que ce serait un pays tout à fait semblable à l'Islande. On est pratiquement à la même hauteur, une fois de plus, que l'Islande. La différence, c'est que les courants, ceux du Labrador et ceux des terres froides, vont créer des hivers beaucoup plus rigoureux. Je crois que ce qui va rendre l'installation encore plus difficile pour ces Vikings, c'est le fait qu'il n'y avait pas de matières premières comme en Islande. Donc comment voulez-vous survivre si vous n'avez pas de bois de chauffage, si vous ne pouvez pas reconstruire des maisons, si systématiquement il faut aller chercher le bois jusqu'en Islande, regardez sur une carte, c'est un trajet énorme, s'il faut aller chercher le minerai jusqu'en Islande ou même plus loin, retourner carrément jusqu'en Norvège, eh bien on comprend que les contacts si difficiles ont fait que petit à petit on a abandonné le Groenland. On va le voir maintenant pour l'Amérique, c'est encore une autre chanson, mais c'est intéressant de voir que ces liaisons comme des sortes de traits d'union existaient systématiquement. C'est-à-dire, quand on était installé en Islande, quand on était installé au Groenland, quand on était installé en Terre-Neuve ou du côté du Labrador, eh bien, systématiquement, on songeait à Bergen. C'est-à-dire qu'en fait, mentalement, on revenait jusqu'en Norvège, car tous les produits, tous les échanges se faisaient jusqu'en Norvège. On ne vivait pas sans vendre ses marchandises et sans en acheter. Ça, je crois que c'est important. Donc, en fait, les gens ne sont jamais partis de Norvège. Ça n'était que des comptoirs, que des endroits agricoles où les gens ont survécu simplement en pensant qu'ils étaient encore totalement dépendants de la Norvège. Alors il suffisait qu'il y ait quoi que ce soit, une petite guerre interne, un manque d'échange, un manque de commercialisation en Suède ou en Norvège ou au Danemark pour que la route se coupe et que tout à coup les gens n'aient qu'une envie, celle de rentrer en terre natale. Et ça, je crois que ça explique l'abandon petit à petit de toutes ces terres que les Vikings vont découvrir, bien sûr, mais surtout toucher, car dans le sens de découverte, on analysera peut-être tout à l'heure, il faut voir autre chose. Alors revenons peut-être maintenant en 992, revenons à l'époque d'Éric le Rouge, ou plus exactement de son fils, Leif, qui va partir simplement avec 35 hommes. 35 hommes, ça signifie un bateau qui va quitter le Groenland et qui va chercher des terres qui ont été repérées quelques années auparavant, un peu comme pour le Groenland, c'est la même chose. Il va ouvrir de nouvelles colonies, mais pour ouvrir de nouvelles colonies, il faut systématiquement trouver du bois de charpente, qui était tellement rare au Groenland, et trouver du bois de chauffage, une fois de plus. Et c'est pour cela que Leif va prendre la mer et chercher encore plus loin vers l'ouest. Alors, il découvre d'abord des terres qui sont totalement arides, qui sont glaciales, qui sont balayées par les vents. Là, on pense qu'il s'agit de la côte est du Labrador. Et puis ensuite, il arrive, alors franchement, dans une terre qui lui paraît beaucoup plus accueillante. Il y a des collines basses qui sont couvertes de forêts. Là, il y a de grandes forêts bien épaisses. Et Leif Erikson, il appelle cette contrée le Markland. Markland, ça veut dire la terre de forêt, enfin la terre où il y a des forêts. Il descend encore plus au sud. Et là, il découvre carrément une côte qui est verdoyante. Là, on pense qu'ils sont arrivés jusqu'en Terre-Neuve. On sait aujourd'hui qu'ils sont arrivés jusqu'en Terre-Neuve. Ils vont appeler cet endroit Vinland. Alors Vinland, c'est le pays du vin, c'est le pays de la vigne. En fait, il s'agit certainement de baies ou de petits arbustes qui poussaient dans la région et qui poussent encore d'ailleurs. Et c'est là qu'ils vont passer l'hiver. Et c'est important qu'ils aient passé un hiver avant de rentrer. Ils ont vu quelles étaient les conditions climatiques pour une installation possible. Et quand il est revenu au Groenland, Leif a fait part de sa découverte et il a surtout vanté la douceur du climat, la fertilité du sol. Et il va demander à son frère, par exemple, Thorvald, de venir avec lui pour découvrir ces contrées. Et pour la première fois, les Nordiques vont faire une découverte qui est quand même d'importance. C'est celle de se retrouver face à des étrangers. Et ces Amérindiens, eux, vont les appeler les Skerlings, c'est-à-dire les hommes qui sont laids, les hommes qui ne sont pas beaux. Donc, c'était peut-être des Indiens du Labrador, c'était peut-être des Indiens du Canada, c'était peut-être aussi des Esquimaux, ça on ne saura jamais la vérité. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aux alentours de l'an 1010-1020, plusieurs chefs se sont succédés, et en particulier un certain Thorfinn, qui est arrivé avec trois bateaux, avec une soixantaine d'hommes, des femmes, des enfants, du bétail, une fois de plus. Il va partir vers l'Amérique, et il va s'établir véritablement sur le nouveau continent. Alors, le premier hiver, il y aura quelques problèmes. Une famine intense, il y aura des tensions entre les Vikings qui sont là, parce qu'il y avait deux... Comment vous l'expliquez facilement? Il y avait deux colonies. Une colonie païenne et une colonie chrétienne. Ça, c'est le début des vrais conflits à l'intérieur des zones vikings. C'est qu'il y a déjà certaines personnes qui sont christianisées. Et ça va se produire lors du premier établissement en Amérique. Et puis, il y aura surtout ce conflit, ces premiers conflits avec les Indiens qui sont là. D'abord, il y aura des échanges de fourrures, il y aura des échanges de tissus. On sait, d'après les sagas, hein, tout ce que je vous raconte, on le sait par quelques écrits qui nous sont parvenus, par quelques légendes qui nous sont parvenues. On sait par exemple que tous les Indiens d'Amérique ne demandaient que du tissu rouge aux Vikings. Et que les Vikings offraient du tissu rouge, puis petit à petit, il n'y avait plus de tissu rouge. Alors, ils prenaient des morceaux de tissu, ils les déchiraient toujours plus petits, plus ils donnaient des morceaux petits, plus on leur donnait de fourrure. Donc, ils avaient intérêt à continuer l'échange, mais que finalement, il y a eu un véritable conflit. Et au bout du troisième hiver en Amérique, ils ont compris que c'était trop difficile de rester ici, que l'installation de cette région du monde n'était pas totalement réussie. Et là, ils vont reprendre la mer en chargeant naturellement du bois, puisqu'il manquait au Groenland. Ils vont ramasser du froment sauvage, toute leur fourrure qu'ils ont amassée. Ils reviennent au Groenland. Et on peut dire qu'à partir de ce jour-là, eh bien, les Européens vont oublier le Nouveau Monde jusqu'en 1492. Tout à l'heure, je disais que les Vikings ont sans doute été les premiers colons européens à toucher l'Amérique. Mais ça ne signifie pas qu'ils l'aient véritablement découverte, c'est ça que je voulais dire. Quand je dis cela, c'est qu'ils sont parvenus, ces Vikings, à franchir l'océan. Ils avaient un courage physique incontestable, mais ils n'avaient pas ce que j'appellerais le courage spirituel. Vous voyez déjà la nuance que je veux donner avec l'idée espagnole, par exemple. Eh bien, leur présence en Amérique, elle n'a pas véritablement modifié ni le monde qu'ils touchaient, ni le leur. Et c'est ça qui est essentiel. Parce que s'ils avaient fait peut-être le plus long voyage qu'on ait jamais fait, n'oubliez pas que depuis Lance au Meadows, où on a fait des fouilles, où on a retrouvé des fermes vikings en Amérique, et la Norvège, il y a 7000 kilomètres. C'est une distance incroyable sur la carte pour ces années 1000. Mais il n'y a eu aucun impact entre ces deux points. Parce que les équipés des Vikings qui sont arrivés jusqu'au Vinland n'ont débouché en fait sur rien du tout. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'ils ont atteint l'Amérique, mais ils n'ont pas su y pénétrer, ils n'ont pas su la découvrir. Là, étymologiquement, le terme est important. Pour eux, l'Amérique, ce n'était pas un nouveau monde. Les voyages eux-mêmes ne dépassaient guère ce qu'ils appelaient, eux, la limite du connu. Et les déplacements à travers l'Amérique du Nord ou l'Atlantique Nord s'effectuaient à l'intérieur d'une zone qui, si on la regarde sur la carte, est une zone climatique tout à fait identique. Entre Bergen, si vous voulez, et l'Islande, il n'y avait que quelques degrés de latitude de plus vers le nord. Les colonies du Groenland, elles étaient exactement à la même latitude que Bergen. Et si je descends jusqu'au Vinland, bon, ben, il y a quoi? Il y a peut-être 10 degrés de différence au grand maximum. Bon, le climat était plus doux, nous l'avons vu. Plus doux, en tout cas, que Groenland. La flore, la faune étaient pourtant semblables. J'insiste un tout petit peu. La seule chose qui soit restée dans les sagas, qui soit restée dans la mémoire des Vikings, ce sont les Skerlings. Parce que ces sagas, elles nous parlent effectivement de ces petits êtres qui étaient laids, qui avaient des cheveux répugnants. Ils nous disent qu'ils avaient des yeux énormes, qu'ils avaient des joues larges. Mais la seule nouveauté pour les Vikings, eh bien, c'est qu'ils avaient vu des gens qui secouaient des vessies d'élan, qui faisaient beaucoup de bruit. Ils avaient vu un unipède qui décochait des flèches, qui était un ennemi terrible au moment des dernières attaques. C'est la seule chose dont se rappellent les Vikings par rapport à l'Amérique. C'est très peu de choses, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que les Vikings n'avaient en tout cas pas la technologie. Ils n'ont jamais eu la volonté, ils n'ont jamais eu les effectifs suffisants pour dominer ou alors carrément pour envahir, pour asservir les indigènes d'Amérique. Et il faut le dire aussi, ils n'avaient même pas le désir de développer les échanges entre eux et les Indiens. C'est-à-dire que, bon, il y avait un manque de structure, il y avait un manque d'équipement. Et bon, la seule chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était cet engouement des Indiens pour l'étoffe rouge des Scandinaves. Mais ça, c'était totalement fortuit, ça n'a débouché sur rien. Si les Vikings avaient comme, prenons le cas justement des Espagnols ou des Portugais, avaient comme leurs successeurs disposé des armes à feu, par exemple, alors là, peut-être qu'ils auraient réussi à refouler les indigènes et qu'ils auraient réussi à s'implanter. Mais quand on voit ce qu'est un Knorr ou ce qu'est un bateau viking qui fait au maximum 25 mètres, bon, d'abord, on comprend qu'ils n'ont pas pu arriver en nombre. Je vous ai parlé de l'installation au Groenland, 10 000, 30 000, 60 000 personnes. Ça, c'est énorme. Mais c'est sur un certain temps, c'est sur un siècle pratiquement. C'est-à-dire qu'en Amérique, ben, il y a eu une famille qui est arrivée avec 35 personnes, puis ensuite trois bateaux. Très, très peu en nombre. C'est-à-dire que l'attaque et la différence entre l'attaquant et l'attaqué n'a jamais existé. Alors, c'est déjà une différence énorme aussi. Et puis, si on regarde la façon dont les Vikings sont arrivés en Amérique, eh bien, on comprend qu'ils l'ont fait uniquement en saut de puce. Ça n'a jamais été totalement pensé ni totalement volontaire. Et les marins qui se plaçaient sur une latitude, par exemple, qui cherchaient sa destination, et puis ils s'efforçaient simplement d'y arriver. Il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas d'instrument qui permettait un aller-retour constant, ou en tout cas pas une fonction d'attaque comme l'aura plus tard l'espagnol ou le portugais. Donc, après avoir effleuré l'Amérique et l'avoir surtout oublié, revenons peut-être à l'Europe, revenons aux Vikings, mais revenons d'abord aux Danois. Alors, on vient d'abandonner les Norvégiens, et les Danois, si vous les placez sur la carte, ils sont déjà beaucoup plus proches du continent. Donc, ils s'intéresseront beaucoup plus à l'Europe continentale, et le premier pays qu'ils auront envie d'attaquer, c'est tout à fait logique, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, et puis ensuite tout l'empire carolingien, la Frise, enfin tout ce qui les entoure. Et on le sait, en cette fin du 8e siècle, au début du 9e siècle, Charlemagne, puis ensuite Louis le Pieux, ils ont beaucoup de peine à repousser ces Danois. Je crois que ça vaut la peine maintenant de s'intéresser un peu à eux et de voir comment ils ont fonctionné. C'est très différent du style norvégien. On a parlé de razzia tout à l'heure, on a parlé de choses d'attaque, on a parlé d'un côté assez rustre, assez brut. Le Danois est déjà plus subtil. D'abord, parce qu'il est continental, il va fonctionner avec des flottes beaucoup plus vastes. C'est-à-dire que ce sont souvent des centaines de bateaux qui vont remonter l'Elbe, qui vont piller Hambourg, qui vont aller jusqu'en France, qui vont contourner la pointe française, qui vont partir sur Rouen, qui vont aller jusqu'à Chartres, jusqu'à Tours. Enfin, ils vont assaillir l'intérieur des terres. C'est totalement nouveau. Charles le Chauve, qui est le roi de France depuis, voyons voir quelle année, 843, si ma mémoire est bonne, eh bien, lui, il va tenter d'endiguer ces Danois, de ce flot d'envahisseurs, mais quelques années plus tard, en 878, les Danois vont remonter la Seine et ils vont attaquer Paris. Ça, c'est une chose incroyable. Ça me fait même penser à un tout petit détail. C'était pour montrer à quel point les Danois étaient vicieux. Ça leur est souvent arrivé de remonter une rivière. Alors, essayez de songer. Vous voyez passer des bateaux avec des voiles superbes, avec ces dragons à l'avant. Hein, on voit tout à fait l'image des drakkars danois. On les voit monter une rivière. Ils passent devant vous. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et 5 ou 6 heures après, ils redescendent en vous attaquant. Tiens, ça, c'est typiquement le genre de surprise que faisaient les Danois. Ils avaient des méthodes. Et on va le voir pour Paris, c'est tout à fait identique. Paris, ils vont l'attaquer effectivement un jour de Pâques. Ça, c'est typique. Ils choisissent uniquement des moments clés pour les chrétiens, par exemple. Alors, en 885, si je prends l'attaque même de Paris, il faut déjà situer la ville. Hein. La ville est très différente de celle d'aujourd'hui, c'est logique. Il n'y avait en fait que l'île. C'est-à-dire la cité, comme on la connaît aujourd'hui, qui était habitée et qui était fortifiée. Il y avait un pont de pierre qui était au nord, il y avait un autre pont qui était en bois au sud, qui commandait toute la tout ce qui était navigable, enfin toute la navigation qui venait en amont. Et comme ils venaient de dévaster Rouen durant l'été, les Danois sont arrivés en fin de saison. À Paris, il n'y a presque personne, parce que Charles le Gros, qui était l'héritier de Charlemagne, était parti en Italie, il faisait la guerre en Italie. Et en tout et pour tout, on prétend, selon les chroniques, qu'il y avait 200 ou peut-être 300 chevaliers qui défendaient les remparts de la ville sous les ordres de quelqu'un qui sera très connu, qui est Eudes, le marquis de Neustrie. Il y avait Gosselin aussi, qui était l'évêque de Paris. Voilà, les deux hommes importants de la place. Donc ça faisait pas lourd. On pense qu'il y avait 700 bateaux qui sont remontés la Seine, et les Vikings étaient certainement 30 ou 35 000. Donc vraiment très facile au premier abord. La ville a été brûlée déjà dès le premier soir, elle était pratiquement en ruine. Les Danois vont devoir s'acharner malgré tout pendant des semaines, car la ville résiste. Elle va résister très très longtemps. Ils vont s'installer sur les deux rives de la Seine. Ils doivent assiéger la ville pendant plus d'un an. C'est un des sièges les plus longs. Là, je parle des Vikings, quand je vous ai dit que ça se passait normalement en quelques minutes. Et ils vont faire des tranchées. Enfin, là, c'est vraiment une attaque en règle. Là, on sent la différence entre nos Norvégiens tout à l'heure et les Danois. Les Danois ont déjà un sens de la guerre, un sens du pouvoir, un sens de la domination qui est totalement différent. Et ils vont sillonner tout le territoire qui entoure Paris. Pendant ce temps-là, ils ont leur petit siège qui est là. Bon, ils vont faire toute la Loire, ils vont tout mettre à sac. Ils n'oublient absolument pas de prendre toutes les églises et les monastères de la région. Et cette ville va finalement être prête à tomber parce qu'il y a la peste qui va décimer la population, qui est déjà très accablée. Et en 886, il faudra attendre Charles, donc vous voyez que c'est très long, qui viendra finalement libérer ses assiégés. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il est venu libérer ses assiégés, il n'a pas gagné la guerre, car les Vikings vont se retirer, d'accord, ils vont d'abord aller en Bourgogne. Ça, c'est une idée du roi. Je fais une anecdote parce que c'est intéressant. C'est simplement pour dire qu'ils ont été d'accord de laisser tomber Paris si on leur offrait quelque chose contre. Et le roi va leur dire, écoutez, moi, je vous offre la Bourgogne. Allez piller la Bourgogne, ça m'intéresse, puisque ce sont mes ennemis, mais laissez Paris tranquille. Donc, c'est une sorte d'échange. Et là, c'est un autre caractère typiquement viking. Je fais quelque chose pour autant que tu me donnes quelque chose. Et c'est l'idée du tribut. C'est quelque chose que tout le monde va payer en Europe. Les Danois vont s'enrichir de façon incroyable parce qu'on va leur payer des impôts un peu partout. Sinon, on vous attaque. Ça, c'était l'idée de base. Et ce même cas parisien nous fait comprendre que Charles, en fait, a aussi dû payer une somme très importante d'argent pour qu'on libère sa capitale. C'est vrai qu'en parlant des Vikings, on pourrait faire presque tout le tour de l'Europe et toute l'histoire de l'Europe. Je vais passer sur un morceau très important, c'est celui de la Normandie. Quand on dit Normand, on dit bien sûr homme du Nord, ce sont les Danois, ce sont les Vikings qui vont s'installer au nord de la France et qui vont fonder le Grand Duché de Normandie, le premier royaume important d'Occident. Mais laissons peut-être tomber cette invasion de l'Angleterre qui va être faite par les Normands eux-mêmes, mais ça c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus tard, c'est déjà la fin des Vikings, ça s'y passe en 1066. Mais revenons peut-être un peu en arrière, en 835, au moment où ces Danois vont lancer une véritable attaque, la première véritable attaque contre la Grande-Bretagne. Et là, ils vont répéter chaque année, jusqu'à la fin du siècle, ce genre de razzia. Ils vont mettre à sac York, Nottingham, ils vont aller jusqu'à Londres, ils vont s'établir à Londres et à Cambridge. Donc vous voyez que ce qui vient de se produire pour la France, pour Paris, se reproduit pour l'Angleterre. Et dans le sud, si je prends la carte une fois de plus de l'Europe, les Danois, eh bien, ce seront des champions aussi, puisqu'ils vont mettre le cap jusqu'à Gibraltar, ils vont réussir à piller Algeciras, ils vont faire toute la côte marocaine, ils vont même gagner la Camargue, et ils vont organiser des razzias, notamment dans la vallée du Rhône. Et en 861 ou 862, peut-être même 860, je ne me rappelle plus, ils vont réussir leur coup le plus important, c'est aller jusqu'en Italie, c'est-à-dire piller la ville de Luna, une ville qui a aujourd'hui disparu. Nous l'avons vu, alors que les Norvégiens et les Danois vont piller pratiquement toute l'Europe occidentale, il nous manque les Suédois. Les Suédois, ils vont se tourner vers l'Est. Ils vont se tourner vers la Russie, ces grandes plaines russes qui sont couvertes de forêts, qui sont couvertes de steppes et qui peuvent fournir des possibilités qui intéressent beaucoup nos Vikings. Je pense naturellement aux fourrures et aux esclaves. Et puis il y a tous ces fleuves qui sont orientés vers le sud et qui ouvrent à leurs bateaux la route de la soie, les grands marchés de l'Orient. En quelques années, les Suédois vont ainsi, ils s'appelaient les Russes, c'est d'ailleurs eux qui ont donné certainement le nom aux propres Russes, ils vont fonder quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire qu'ils vont monter sur le trône des tsars, ils vont aller jusqu'à Kiev, jusqu'à Novgorod, ils vont descendre beaucoup plus bas et ils vont toucher Byzance. Et petit à petit, ils vont se couper de leur patrie en fondant cet empire, ce royaume incroyable. Ils vont se couper de la Suède parce que ils vont devenir chrétiens. Et c'est eux qui vont faire appel à tous ces orthodoxes venus du sud de la Grèce et qui vont petit à petit couvrir toute la Russie et en faire la grande église orthodoxe russe. Ça, c'est un peu la fin de l'histoire des Vikings, car là, on arrive déjà aux alentours des années 1000. Et la seule chose qui restera avec la Russie, ce sont quelques relations commerciales qui vont subsister entre le grand empire chrétien de cette Russie, et puis la Suède qui reste païenne, d'où sont partis nos Vikings. Alors là, j'ai un petit peu résumé la troisième partie de cette épopée, mais ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est de vous raconter aussi ce qui a fait la base de la vie de ces Vikings. Qu'ils sont-ils et puis comment ont-ils vécu? Alors je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que en Suède, en Norvège, au Danemark, ces gens-là, c'était d'abord des paysans et non pas des marins. Si je reprends le Danemark et la Suède, ils vivaient dans des petits villages. En Norvège, en Islande, on l'a vu, jusqu'au Groenland et même en Amérique, c'était uniquement des fermes isolées. Alors ça, c'est un système de vie qui est au somme assez simple, assez sobre. C'est ce qui explique aussi un peu le côté un peu brut du marin, du viking. En bas de l'échelle sociale, si on prend les trois grandes couches sociales, en bas de l'échelle, ben, y a des esclaves. Les esclaves, ils sont asservis dès la naissance, ce sont les prisonniers de guerre, ce sont des hommes qui ont pu être libres un jour et qui ont été déchus de leurs droits par la justice. Et qui vont travailler. Ce sont les gens qui ont les cheveux courts. Hein. Chaque fois qu'on voit un viking en portrait, on s'imagine ses longs cheveux blonds. Les esclaves avaient les cheveux coupés très courts. Et en fait, c'était la main-d'œuvre de base. Toute la main-d'œuvre de la ferme, hommes et femmes esclaves, faisaient fonctionner ces fermes ou ces petits villages. Et ensuite, il y a les hommes libres, ce qu'on appelait les bondis. Les bondis sont des propriétaires qui exploitent leurs terres et qui ont une position qui est déjà beaucoup plus enviable que la plupart des paysans qu'on a à la même époque en Europe. Ça, je crois que c'est important parce qu'ils ont une base économique et politique qui est très différente. La société scandinave est très différente et ils ont des droits que n'avaient pas nos paysans. Le côté féodal n'existe pas. Ce sont des gens qui ont le droit de porter des armes, qui peuvent faire appel à la justice, qui ont une certaine égalité entre eux et qui sont dirigés par des chefs, des rois, d'accord, mais qui sont élus par des assemblées. Donc, on a une sorte de démocratie, malgré tout, chez les Suédois. Et il y a une sorte de responsabilité qui est assez différente. Un roi est responsable de ses actes devant ses électeurs. C'est une différence qui n'existait pas en France, qui n'existait pas dans le reste de l'Europe, je le rappelle. Donc, il y avait un côté volonté du peuple. Et si le roi a donné un ordre, ben, il fallait d'abord que cet ordre soit approuvé, ou en tout cas que sa décision paraisse la meilleure. Je crois que c'est déjà une chose déterminante qui fait comprendre aussi que ce roi ne sert qu'à maintenir en fait la sécurité. Il sert à la prospérité, à l'honneur surtout. Ça, voilà une chose qui est très très viking, car le chef ou le roi était d'abord religieux aussi. Philosophiquement, c'est important parce que toutes ces monarchies qu'on avait ailleurs, qui étaient très centralisées par le christianisme, eh bien, elle a rien à voir. Ça n'existe pas chez les Suédois, ça n'existe pas chez les Norvégiens en tout cas, car ce pouvoir législatif, c'était seulement l'assemblée du ting ou du thing, comme on l'appelle, qui était la garante de ce pouvoir. Il y a une nuance énorme. Et quand j'ai parlé de religion, ça, je crois qu'on pourrait en parler aussi parce que on ne comprend pas les Suédois si on n'aborde pas ce thème. Parler un peu de la religion de ces vikings, parce qu'au fond, c'est ça la grande différence entre un viking et le reste de l'Europe. C'est qu'ils sont païens et surtout, ils sont polythéistes. Dans leur croyance, il y a plusieurs dieux et tous ces dieux résident dans ce qu'on appelle Asgard. C'est un peu l'Olympe, hein, c'est un peu une espèce d'Olympe de la mythologie nordique. Et Asgard, c'est une forteresse au centre de laquelle il y a un arbre, un frêne, en fait, qui pousse et dont les racines s'enfoncent jusqu'aux enfers. Et les branches sont tellement hautes qu'elles arrivent à percer la voûte céleste. Ça, c'est l'image du monde viking. Alors, au début du Moyen-Âge, alors que le christianisme a depuis longtemps gagné toute l'Europe occidentale, vous comprenez que ce paganisme crée la différence en Scandinavie. Il y a trois dieux pour eux dans cet Asgard dont on parlait. Il y a Odin, il y a Thor, il y a Freyr, et Odin, c'est naturellement le dieu suprême, c'est celui qui va dominer tous les autres, C'est le dieu du savoir, mais c'est aussi le dieu de la guerre. C'est lui qui va leur permettre de partir à la conquête du monde, ou plus exactement, d'avoir autant de victoires, car c'est le dieu, par essence, de la victoire. Et c'est une divinité un peu mystérieuse, qui est même un peu inquiétante. C'est lui qui est toujours accompagné de ses deux corbeaux, Huguin. Huguin, c'est le corbeau de la pensée, et puis il y a Mounin, qui est celui de la mémoire. Ça, on pourrait reprendre toutes les idées wagnériennes, enfin, tous les grands mythes du Nord nous racontent l'histoire d'Odin, mais aussi de Thor, qui est son fils. Thor, qui signifie le tonnerre, et qui se déplace sur un char tiré par deux boucs dans l'espace. Il y a ce fracas qui ressemble au grondement de l'orage. Il brandit. Lui, alors, ça n'est pas un éclair, c'est un marteau. Son marteau, qui est une sorte de massue avec un manche assez court, qui est effectivement le symbole de la foudre pour les Nordiques. C'est le dieu le plus populaire, mais c'est aussi le dieu de tous les paysans scandinaves. Puis le dernier, celui dont on a parlé, Freyr, eh bien, c'est celui qui est bon, qui est généreux, qui est le dieu de la fertilité. Quand on pense à l'agriculture, c'est celui qu'on rencontre le plus souvent. Et puis il y a Freyja, sa sœur, qui est la déesse de la beauté, qui est une femme qui règne sur toute cette armée des Valkyries. Ces Amazones guerrières qu'Odin envoie sur Terre pour juger de la bravoure et de la force des combattants vikings. Et lorsque ces batailles prennent fin, eh bien c'est elles qui vont accompagner tous ceux qui sont morts au combat jusqu'au Valhalla, enfin l'éternité bienheureuse des vikings. Et autour de ces trois figures, de ces quatre figures dominantes, il y a une quantité de dieux secondaires, des elfes, des démons, des génies, qui incarnent souvent les âmes même des défunts. Alors, ce dont on parle beaucoup quand on a cette vision viking du monde, sont les fêtes. Des fêtes solennelles qui sont célébrées tous les 9 ans. Il y a d'abord les cérémonies, il y a des sacrifices tout à fait sanglants. Ils les appelaient Blot, hein. Blot, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a l'idée du sang, bien sûr. Et on nous relate ces cérémonies en disant que chaque espèce de créature vivante qui entourait, en fait, tout ce qu'on trouvait dans le monde de vikings, s'il était de sexe masculin, était offert lors de ces grandes fêtes tous les 9 ans, et on apaisait les dieux uniquement avec du sang. Alors, on pourrait s'imaginer à l'intérieur d'une grande forêt et voir tous ces corps d'animaux qui sont pendus aux arbres, et puis on sait que, bien sûr, il n'y avait pas seulement que des animaux, de temps à autre, il y avait aussi quelques corps humains. On a même un chroniqueur qui nous parle d'un sacrifice avec 72 corps qui étaient pendus les uns à côté des autres lors d'une de ces grandes fêtes. Ces morts rituels étaient ensuite suivis de banquets qui commençaient avec des libations qui étaient offertes aux dieux. Et ça nous donne un peu l'ambiance de cet univers viking. C'est d'abord une chose qui paraît assez peu homogène. On l'a ressenti aussi dans leur façon de vivre, leur façon d'attaquer, leur façon de composer leur propre histoire. Leur monde, eh bien, il est composé de plusieurs niveaux. Il y en a 3, il y en a même 9 parfois. Il y a Asgard, qui est la demeure de tous les As, et au centre, il y a Midgard, qui est la demeure du milieu. Il y a aussi le monde des hommes, et puis il y a une espèce d'anneau extérieur où habitent les puissances divines. Et puis, il y a un serpent qui supporte tout l'ensemble de l'édifice. Et si ce serpent commençait à bouger, ben, effectivement, il y avait des tremblements de terre où l'univers allait s'effondrer. Et puis il y avait cet axe central dont on a déjà parlé, ce frêne magnifique qui tenait le tout, qui est éternellement vert et qui soutient le monde, cet arbre qui jaillit du centre de l'univers et au pied duquel il y a plusieurs sources, ces sources qui sont les fleuves du monde qui descendent ainsi. Et dans les branches de cet arbre, eh bien, il y a divers animaux symboliques qui s'agitent. Il y a des serpents qui se tapissent dans ses racines. Puis il y a tous ces dieux qui viennent s'assembler sous ses ombrages. Pour y accéder, bon, il faut franchir des ponts qui vibrent, des ponts qui brillent. Il y a l'arc-en-ciel, il y a la Voie lactée. Enfin, j'ai volontairement créé une sorte de fourmillement. C'est un peu le fourmillement que devait ressentir le viking dans sa tête lorsqu'il parlait de son cosmos, de son univers, lorsqu'il partait sur son drakkar à l'aventure. Et le dernier point d'aujourd'hui, la dernière aventure, c'est peut-être l'ultime aventure du viking, celle de sa mort, celle de l'au-delà, sa vision de l'au-delà, qui nous fait aussi comprendre comment ont pu vivre pendant 300 ans ces plus grands conquérants des mers, ceux qui sont partis aussi loin et qui ont fait autant de choses au nom non seulement de leur dieu, mais de leur pensée, de leur vécu, de leur intérieur. Lors de notre prochain rendez-vous, nous ferons un voyage surtout dans le temps, à la découverte du calendrier, à la découverte du découpage de nos semaines, de nos saisons, de nos mois, de nos années, afin de savoir pourquoi Pâques est à Pâques, pourquoi Noël est à Noël, pourquoi le Nouvel An est à Nouvel An. Et ceci nous permettra de voyager dans l'espace aussi, d'aller à Babylone, en Égypte, de revenir en Occident, de repartir en Chine. Un voyage presque planétaire à la découverte de l'homme, bien sûr, mais surtout de son espace-temps.